Bonjour et bienvenue sur Radio Picasso, Lina et Jules au micro. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Lars Jordheim, professeur des universités en chimie analytique à l'Université de Lyon. Monsieur Jordheim vient d'accepter un échange avec les élèves de la Cordée Santé au LPO. Il a accepté de répondre à quelques-unes de nos questions. Bonjour Monsieur Jordheim.
Bonjour.
Pouvez-vous nous dire où vous avez grandi ?
Alors moi, je suis norvégien. J'ai grandi dans une ville, à côté d'une ville qui s'appelle Hamar, où l'été était très ensoleillé et parfois chaud, et l'hiver enneigé et parfois très froid.
C'est comment de vivre en Norvège ?
C'est relativement différent par rapport à ici, en tout cas par rapport à la vie que moi j'ai ici aujourd'hui et que j'ai pu donner à mes enfants, je dirais. J'étais à la campagne, donc j'étais très proche de la forêt, des grands espaces. La journée était assez différente, c'est-à-dire que j'allais à l'école, même jusqu'au lycée, j'avais fini à 14h, 15h. Donc la journée scolaire était beaucoup plus courte, ça donnait du temps pour travailler, faire du travail scolaire après, et surtout une vie associative avec des activités sportives, etc., dans l'après-midi et pas forcément tard le soir.
Qu'est-ce que vous préfériez comme activité sportive et associative ?
Alors j'ai joué un peu d'orgue, donc un peu de musique, et puis j'ai fait beaucoup de hand de 12 ans jusqu'à la fin du lycée dans un club où on n'était pas trop mauvais au niveau norvégien, mais à l'époque c'était pas un grand sport norvégien. Après, on a toujours un chalet à la montagne où on allait pendant les vacances, que ça soit en été ou en hiver. On faisait du ski de fond, du ski de montagne et un peu de ski de piste aussi.
Et comment fonctionne le système scolaire en Norvège ?
Alors, je parle que de ce que j'ai connu, parce qu'en fait, moi, ça fait presque 30 ans que je suis en France et que je suis assez loin du système scolaire actuel. Mais on avait une journée qui était, je dirais, allégée par rapport à ce que je vois ici. Et puis, comme on finissait tôt, ça voulait dire qu'on n'avait pas de grande pause. Par exemple, à midi, on avait 30 ou 35 minutes pour manger, ce qui veut dire que c'était, il n'y avait pas de cantine. On amenait notre petite tartine ou quelque chose comme ça. Donc, ça allait assez vite. Autre chose, c'est que depuis qu'on avait, je sais pas, 9-10 ans, c'était la douche pour tout le monde après le sport, par exemple. Ce qui me semble être une grande différence par rapport à ici.
Qu'avez-vous suivi comme études supérieures ?
Alors, juste après le bac, je suis allé à Toulouse pour suivre des études de pharmacie. Donc j'ai fait une première année de pharmacie avec un concours à la fin. Et ensuite, j'ai été accepté et continué derrière mes études de pharmacie à Toulouse avec une spécialisation plutôt axée vers la recherche. Ce qui fait qu'en la dernière année... au lieu de, comme certains collègues qui sont allés travailler soit en officine, soit dans l'industrie, j'ai fait une année où j'ai travaillé dans un laboratoire de recherche, ce qui m'a permis de valider mon année et aussi me préparer à faire derrière une thèse d'université.
Qu'est-ce qu'une thèse d'université ?
Alors, une thèse d'université, c'est un diplôme universitaire qui est déconnecté des études de pharmacie et qui est ouvert à tout étudiant qui a un niveau master. Et c'est donc, en fait, pendant 3 ans, globalement, plus ou moins quelques mois ou un an, on travaille dans un laboratoire de recherche sur une question de recherche ou sur plusieurs questions de recherche, et on a comme travail de répondre à ces questions. Donc, ça peut être assez varié. Dans mon cas, j'étais dans un laboratoire de biologie où on travaillait sur des cellules, sur des questions de mécanismes de réponse par rapport à des médicaments. Mais ça peut être des personnes qui travaillent en archéologie, faire une thèse d'université en archéologie, en histoire de l'art, ou voilà. Donc c'est très très varié, mais c'est toujours le même système, c'est-à-dire qu'on est dans un laboratoire, on travaille avec des superviseurs qui sont là pour nous apprendre à faire de la recherche.
Qu'est-ce qui vous a amené en France ?
Alors moi, je voulais apprendre le français. J'ai un frère qui était déjà venu en France. Qui avait commencé des études mais qui lui convenait pas et qui avait passé un an à travailler un peu dans les Alpes, dans des stations de ski, etc. et qui était rentré, qui était content, il avait appris le français et puis il avait passé une très bonne année. Donc je pense que je voulais faire un peu pareil, dans le sens où je voulais apprendre le français. Je m'étais inscrit dans des études qui me semblaient me correspondre par rapport à ce que j'aimais au lycée. Et je m'étais dit, bah, tant que ça marche, je reste. Après, je verrai bien ce que je fais. Et en fait, ça fait presque 30 ans que je suis là. Donc ça a plutôt bien marché.
Qu'est-ce qui vous a le plus surpris quand vous êtes arrivé en France ?
Je pense l'importance de la nourriture que tout le monde donne ici, en particulier par rapport à ma famille et ce que j'avais l'habitude, ce dont j'avais l'habitude quand j'étais au lycée. Après, il y avait quelque chose aussi, c'est-à-dire que moi, je suis parti après le lycée, donc j'ai toujours eu une vie d'adulte, entre guillemets, ici en France, que je n'ai jamais eu en Norvège. Donc, il y a certains points qui sont pour moi un peu difficiles à comparer entre les deux pays.
Quand êtes-vous devenu professeur des universités ?
Alors, professeur, je suis devenu professeur cette année, en septembre. Professeur, c'est un titre d'enseignant à l'université. Et avant ça, j'ai fait 11 ans en tant que maître de conférence des universités, qui est en fait un autre niveau, on va dire, de poste d'enseignant-chercheur à l'université.
À quels étudiants enseignez-vous ?
Alors, j'enseigne majoritairement aux étudiants de pharmacie. Ça va de la première à la quatrième, cinquième année de pharmacie.
Vous enseignez quoi plus précisément ?
Alors, j'ai eu un poste d'enseignant en chimie analytique. Donc, la chimie analytique, c'est la discipline qui étudie les méthodes d'analyse qui sont utilisées dans le domaine de la pharmacie pour soit doser des médicaments, identifier des médicaments, ou alors pour certains types de dosages dans des liquides biologiques, c'est-à-dire dans le sang ou dans des tissus même.
Est-ce que vous auriez des exemples de choses que vous avez étudiées que nous utilisons dans la vie de tous les jours ?
Alors, au cours de nos études, on a appris des choses sur la vue, par exemple, enfin les lentilles. Donc moi j'ai des lunettes, voilà. Donc c'est quelque chose qu'on utilise. On pense pas forcément à comment ça fonctionne, mais enfin c'est quand même là, c'est utile. Autre chose, c'est qu'on apprend beaucoup de choses sur le comportement, enfin le fonctionnement de notre corps. Je sais pas par exemple si vous savez ce que c'est le foie, à quoi il sert, où il est dans le corps. Voilà, moi, quand je commençais mes études, j'avais aucune idée. C'est des choses qui m'intéressaient beaucoup, un peu d'anatomie, et puis surtout de comprendre le fonctionnement des différents organes. Et alors, c'est pas des choses qu'on utilise, mais en fait, on le fait tout le temps sans s'y penser.
Et qu'est-ce qui vous a plu dans ce domaine ?
De la pharmacie ?
Oui.
Alors, au départ, c'était la chimie. Au lycée, j'aimais bien la chimie et c'est ça qui m'a attiré vers le domaine de la pharmacie. Et assez rapidement, je pense que c'est plus la biochimie, c'est-à-dire l'étude du métabolisme dans les cellules et dans l'organisme qui m'a intéressé le plus et ce qui m'a effectivement amené à travailler plus dans ce domaine-là derrière, en particulier pendant ma thèse d'université, qui était donc des études sur des cellules et des médicaments, l'interaction avec des médicaments.
Quels sont les débouchés pour des étudiants en fac de pharmacie ?
Alors, il y a beaucoup de débouchés. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vient dans ce lycée pour parler des métiers de la pharmacie et pas du métier de pharmacien. Il y a bien évidemment l'officine, c'est le métier le plus connu et le plus visible pour tout et chacun. Et par contre, vous trouvez aussi des pharmaciens à l'hôpital, dans ce qu'on appelle des PUI, des pharmacies à usage interne, donc des pharmacies qui sont spécialisées et pour les patients et pour les différents services hospitaliers. Vous avez des pharmaciens dans des laboratoires d'analyse médicale que vous avez ou à l'hôpital ou en ville. C'est-à-dire que vous avez un prélèvement sanguin, bah vous allez dans un laboratoire et c'est souvent un pharmacien qui travaille là-dedans. Vous avez aussi beaucoup de pharmaciens qui travaillent dans l'industrie pharmaceutique, avec plus de 20 métiers différents pour les pharmaciens là-dedans. Donc c'est une diversité énorme et une richesse de ces métiers-là. Vous en trouverez également dans l'armée, à l'université, dans des instituts de recherche également, et puis aussi de plus en plus dans des institutions nationales ou internationales de régulation de médicaments ou de je dirais presque de politique, c'est-à-dire dans l'OMS au niveau international, à l'ANSM, à l'Agence nationale de sécurité de médicaments et autres produits de santé ici en France, et probablement aussi à l'Europe par exemple.
Et qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour réussir des études en pharmacie ?
Alors, les études de pharmacie sont des études assez longues, reconnues, on va dire, plutôt par être difficiles, ce qui ne va pas bloquer qui que ce soit. Il faut avoir des capacités de travail, et je dirais, comme un de mes collègues le dit souvent, le pharmacien, c'est un peu le polytechnicien de la santé, c'est-à-dire qu'on touche un peu à tout. Donc, il faut être curieux, ouvert, à apprendre plein de choses sur des domaines, dans les domaines différents.
Est-ce qu'il y a une différence entre les études de pharmacie et les études de médecine qui sont plus générales ?
Alors, pharmacie n'est pas une branche de la médecine. La pharmacie, les études de pharmacie mènent à un diplôme de pharmacien. Les médecins font des études de médecine. Et donc, dans les études de médecine, vous avez plusieurs spécialisations, spécialités. Vous pouvez être médecin généraliste ou médecin chirurgien, etc. La pharmacie n'est pas une spécialité de la médecine. On est complètement à part et on forme donc aux différents métiers de la pharmacie, avec effectivement aussi des spécialisations, soit un pharmacien d'officine, soit un pharmacien industriel, soit un pharmacien pour les hôpitaux.
Et ce serait quoi la différence fondamentale entre la médecine et la pharmacie ?
Alors, c'est deux métiers complètement différents. Ce sont des métiers complètement différents. Le médecin est très proche du patient. Il est en contact avec le patient. C'est un métier de soins. Alors que le pharmacien, il est plus en retrait par rapport au patient. Mais tout ce qu'il fait, et peu importe l'activité du pharmacien, tout ce qu'il fait, c'est au service du patient. Mais on est plus en retrait par rapport au patient, ce qui différencie, je dirais, c'est la plus grande différence entre les deux cours de métier.
Y a-t-il assez d'étudiants en pharmacie en France ?
Non, malheureusement. On a eu une réforme qui a été mise en place en 2020, qui a changé, modifié l'entrée dans les études de pharmacie et les autres domaines de la santé d'ailleurs. Et suite à cette réforme, pendant 3 ans maintenant, on a eu du mal à remplir toutes les places. Alors il y a plein de raisons, on n'a pas besoin de les citer, mais enfin il y a des différentes raisons qui font que au niveau national, et c'est aussi le cas à Lyon, on n'a pas rempli toutes les places qu'on a proposées pour des étudiants en pharmacie. Ce qui va avoir un effet derrière, c'est que dans quelques années, il va manquer des pharmaciens en France, parce que des personnes vont continuer à partir à la retraite, et pourtant, il n'y en a pas assez qui sortent des universités.
Selon vous, comment pourrait-on faciliter l'accès vers des études de pharmacie ?
Alors, c'est une très bonne question. Premièrement, je pense que ce qu'on fait là aujourd'hui, c'est une action qui aide à ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'en tant qu'enseignant et faculté de pharmacie, on va dans les lycées, on va vers le public, on est présent dans les salons d'étudiants, etc., pour parler des métiers de pharmacie, pour rendre nos métiers et nos études plus connus pour les lycéens, mais aussi pour les parents, parce que c'est malheureusement assez mal connu. Si vous regardez, par exemple, des séries télé, on voit souvent des médecins et très, très rarement des pharmaciens. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on fait déjà et c'est fait au niveau national. Hein. Il y a aussi des programmes d'information au niveau national pour donner des informations justement aux jeunes sur les métiers et les études. Et puis, il y a quelque chose que personnellement j'aimerais bien, mais qui est pour l'instant complètement impossible à mettre en œuvre, mais on essaye un petit peu, c'est d'arriver à ce que les lycéens accèdent directement aux études de pharmacie. Parce qu'aujourd'hui, après le lycée, on va dans une année PASS ou une année LAS, et on va pas en pharmacie. Alors que ce qu'on souhaiterait, nous, c'est d'avoir une vraie première année de pharmacie qui commence juste après le bac. Et ça permettrait d'identifier aux lycéens clairement que c'est une débouchée et une possibilité d'études et de métier directement après le bac.
On a parfois l'image du pharmacien qui vend simplement des médicaments. De quelles compétences doit-il faire preuve au quotidien ?
Alors là, vous parlez du pharmacien d'officine, qui est un des métiers du pharmacien, et c'est une de ses activités, effectivement, de vendre des médicaments. Parfois, on va dire, il sert de il sert uniquement d'intermédiaire entre le médecin qui a prescrit des médicaments et le patient qui va les prendre. On peut se dire à quoi il sert, pourquoi il y a besoin de ça. Alors, il a premièrement un rôle de contrôle, parce que parfois le médecin peut se tromper. Parfois, le médecin n'a pas eu le temps de connaître tout le quotidien de ce patient, de connaître les autres maladies qu'il a, d'autres médicaments qu'il prend, et de connaître les interactions. Il y a ce qu'on appelle les interactions médicamenteuses, et c'est très important de connaître ces interactions pour maintenir et garantir l'efficacité des médicaments que le patient il va prendre. Donc ça, c'est la responsabilité du pharmacien d'être au courant de ça et de vérifier ça avec son patient. Donc, même si on peut imaginer qu'en fait, il ne fait que mettre en action ce qu'a dit le médecin, il y a un rôle important de contrôle. Ensuite, il y a aujourd'hui beaucoup de nouvelles missions pour le pharmacien. Si on va 10 ans en arrière, c'était impensable qu'un pharmacien puisse vacciner, par exemple. Vous allez aujourd'hui dans presque n'importe quelle pharmacie, vous pouvez vous faire vacciner. Et ça, ben, ça fait partie de l'évolution du métier de pharmacien d'officine et des missions du pharmacien d'officine. Il y a aujourd'hui aussi ce qu'on appelle des entretiens pharmaceutiques, c'est-à-dire qu'il peut s'entretenir avec des patients pour aider à maintenir la bonne prise en charge du patient, pour qu'il continue à prendre ses médicaments, pour qu'il prenne soin de lui-même, pour l'aider en fait à être bien traité, bien et à terme guéri de ses maladies. Ça, c'est en particulier vrai pour ce qu'on appelle les maladies chroniques, c'est-à-dire des patients qui sont malades pendant des années et des années et qui viennent souvent voir le pharmacien.
Et à quel type de personnes vous conseillerez ces études en pharmacie?
Alors, justement, par rapport à ces différents métiers, je dirais que c'est ouvert à beaucoup de types de personnes, à de personnalités différentes, parce que presque tout le monde va se retrouver, va trouver un métier qui lui convient. Alors, certes, il faut passer les études, il faut être capable de suivre les études qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont longues et reconnues comme étant difficiles et qui sont variées. C'est-à-dire qu'on a des enseignements en biologie, en chimie, mais aussi en réglementation, en droit, en économie, en santé publique. Donc en fait, ça touche un peu à tout et il faut être capable de faire ça. Mais au niveau, je dirais, de la personnalité d'un jeune aujourd'hui, qu'il soit introverti ou très ouvert en contact avec les gens, il trouvera quelque chose à faire dans le domaine de la pharmacie.
On entend souvent parler des difficultés du personnel médical en France. Est-ce que vous avez un regard particulier sur ce sujet?
Alors, particulier peut-être pas. Je rejoins ça je reconnais en fait les difficultés que le personnel soignant et le personnel médical, de façon générale, peut avoir en France aujourd'hui, qui est lié à plein de paramètres. On a déjà parlé un petit peu de la difficulté d'avoir suffisamment d'étudiants dans nos facultés, ce qui va pas aller dans le bon sens. Il y a une population qui est vieillissante, ce qui fait qu'effectivement, les gens vivant plus longtemps, ils vont être plus malades, etc. Il faut s'en occuper, etc. On parle de déserts médicaux aujourd'hui, c'est-à-dire il y a des zones en France où il y a de moins en moins de médecins. Les gens, quand ils sont malades, ils n'arrivent pas à avoir un rendez-vous médical. Demain, alors c'est même déjà vrai, mais demain, on aura les déserts pharmaceutiques. C'est-à-dire que celui qui a pu aller voir un médecin, il trouvera pas forcément une pharmacie qui sera ouverte. Tout ça pour dire que les difficultés dans le monde de la santé sont là. Et si on n'arrive pas à attirer plus de jeunes vers ces études-là, ils seront là demain, ils seront même amplifiés demain.
Donc aujourd'hui, vous intervenez auprès de la cordée santé à Givors. Est-ce que vous faites ça souvent?
Pas forcément des cordées. On a monté une cordée cette année, une nouvelle cordée avec la faculté de pharmacie, un lycée à Saint-Priest. Par contre, on va dans des lycées pour parler des études de pharmacie et des métiers de la pharmacie. On est pas mal d'enseignants qui font ça, et il y a aussi des étudiants qui viennent parfois avec nous ou qui vont même tout seuls en fait pour informer des études et de métiers, mais aussi de l'accès aux études de pharmacie. Effectivement, ce système passe là, etc. Et on est aussi comme on est présent dans les salons de l'étudiant. Il va y en avoir un début janvier à Eurexpo. Et on collabore aussi avec la faculté de médecine à Saint-Étienne pour avoir aussi des informations dans les lycées et auprès des lycéens de la Loire et de la Haute-Loire.
Est-ce que ça vous apporte quelque chose, les cordées ?
Oui, ça apporte une proximité avec les élèves. Ça apporte des futurs étudiants, je l'espère, et ça permet d'être très proche d'élèves qui sont intéressés dans le domaine de la santé, dans notre cas, et de pouvoir échanger directement avec eux pour leur apporter des réponses qu'ils auraient peut-être du mal à trouver par ailleurs.
Et est-ce que vous avez d'autres passions dans la vie ?
Alors, je continue à faire du hand, malgré mon âge. et j'aime beaucoup de la photographie, donc j'essaye de faire de la photo et d'en faire quelque chose derrière parfois. Voilà.
Et pourquoi vous avez choisi le domaine de la pharmacie et pas de la photographie ?
Ah, c'est, je pense, une question de loisirs et de métier. C'est-à-dire que la photo, j'en fais parce que j'aime ça. Si ça devenait une nécessité de faire de la photo, je l'aborderais d'une autre façon et peut-être pas avec du plaisir. Alors que la pharmacie, j'aime ça, mais c'est pas non plus un loisir.
Monsieur Jordheim, nous arrivons à la fin de cette émission. Souhaitez-vous ajouter quelque chose ?
Oui, on organise pour la première fois cette année des portes ouvertes à la faculté de pharmacie de Lyon. C'est le 8 février 2025. Il y aura les informations sur notre site internet, donc il faudra s'inscrire et on espère avoir beaucoup de gens qui viendront visiter nos salles de TP et rencontrer des enseignants et des étudiants ce jour-là.
Eh bien, merci Monsieur Jordheim, merci Lina et à bientôt sur Radio Picasso.